je ne vais pas vous parler aujourd'hui, comme j'allais dire mon habitude, ni des Étrusques ni des Grecs. Je pense que certains d'entre vous suivent les cours que je donne ici sur les Étrusques, et ce n'est décidément pas le sujet de ce jour. La séance d'aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui, a pour but effectivement de vous parler de la famille Pinette. N'y voyez pas un excès narcissique soudain et un peu trop poussé, non, c'est la réponse à une commande, votre président vient de le dire, dans le cadre d'une série de cours que vous avez, je crois, sur l'industrie à Chalon. Le cours d'aujourd'hui aura donc pour but d'évoquer une dynastie industrielle chalonnaise à cheval sur le 19e et le 20e siècle. Il se trouve que j'y appartiens, tout comme mon père, ici présent. Et donc, le but de cette séance est de tenter d'évoquer l'histoire de cette famille, qui je crois est intéressante, pas simplement parce que c'est la mienne ou la nôtre, mais aussi parce que cette famille et cette aventure industrielle est finalement bien représentative de ce que peut être en France entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. L'évolution de l'industrie de notre pays, et je pense que le cas Pinette est finalement assez modélisant pour Chalon peut-être, mais également d'autres entreprises du territoire national. Le nom de Pinette est un nom qui est un peu connu des Chalonnais, en tout cas des Chalonnais de vieille souche, j'allais dire. Les Chalonnais plus récents connaissent peut-être moins ce nom. Et aujourd'hui, quand on se promène dans la ville de Chalon, on aperçoit le nom Pinette à trois reprises dans le paysage urbain. D'abord, il y a, je l'apprends peut-être à certains d'entre vous, une rue Pinette. Bon, ça n'est pas la plus belle rue de Chalon, peut-être. C'est une rue qui est perpendiculaire à l'avenue Boussicault. Et cette rue Pinette signale donc, dans la topographie urbaine, ce nom qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a également, vous le savez, ce n'est peut-être pas le geste architectural du XXe siècle le plus réussi de notre cité, mais enfin, il y a à Chalon une résidence Pinette que vous connaissez, qui se situe rue Philibert-Dine. Cette résidence Pinette porte ce nom tout simplement parce qu'elle s'est implantée à partir des années 1970 sur le site des anciennes usines Pinette que nous aurons l'occasion d'évoquer, d'ailleurs de le voir tout à l'heure. Bref, la résidence Pinette est donc le deuxième élément qui, dans la géographie chalonnaise actuelle, permet de connaître ce nom de Pinette. Et puis, le troisième élément qui permet aussi de connaître ce nom-là, c'est bien entendu l'actuelle entreprise Pinette et Mitco Industrie, dont vous voyez notamment ici le sigle. Cette entreprise n'appartient plus à la famille Pinette, mais l'usine existe sur la zone industrielle, et c'est le troisième élément qui permet décidément à un Chalonnais qui se promène dans sa cité de connaître ce nom. Et c'est donc à la découverte de cette famille Pinette et de cette dynastie industrielle que je vous invite aujourd'hui. En fait, l'histoire de la famille Pinette, la famille Pinette industrielle, si j'ose dire, va commencer dans la deuxième moitié du 19e siècle avec le personnage que vous voyez ici, qui est donc mon arrière-grand-père, l'arrière-grand-père de mon père ici présent, et qui s'appelle Gustave Pinette. Gustave Pinette est né à Saint-Léger-sur-Deux, hein, le berceau de la famille Pinette, c'est un secteur qui se situe aux confins du nord de la Saône-et-Loire et du sud de la Côte d'Or, entre Nolay et Saint-Léger-sur-Deux, si vous voulez. Le père de Gustave Pinette était boulanger. Mais ce n'est pas à la boulangerie que se destine son fils. Gustave Pinette, dont vous voyez ici une photographie où il est âgé environ d'une trentaine d'années, s'intéresse plutôt à la mécanique, bref, à l'industrie qui, bien entendu, en France, au XIXe siècle, connaît sa révolution. Et Gustave Pinette, le jeune Gustave Pinette, âgé d'une vingtaine d'années, va décider de faire un tour de France pour se former à ce façonnage du métal qui l'intéresse, le domaine de la chaudronnerie qui est le sien. Et Gustave Pinette va donc entreprendre une sorte de voyage en France pour se former à cela. Et la photo que vous voyez là nous présente ce jeune homme, sans doute au retour du Tour de France en question, alors qu'il est, j'allais dire, fort de ce qu'il a appris, de ce qu'il a acquis. Et cette acquisition d'un savoir-faire va lui permettre d'acquérir une petite entreprise. Une entreprise qui jusque-là se trouvait à Chalon-sur-Saône. Vous connaissez bien entendu cette vue qui a été prise dans les années 1960, sans doute en 1963, vue qui représente une cour qui existe d'ailleurs toujours. Elle a un petit peu changé, mais enfin, grosso modo, si vous passez rue Michelet à Chalon, vous verrez, si vous êtes curieux de l'histoire de Chalon, vous verrez cette vue-là, que les archéologues et historiens de la ville connaissent bien, parce que la tour que vous voyez ici dans le fond est une tour de l'ancienne muraille de la cité médiévale de Chalon, qui existe toujours, qui est d'ailleurs classée monument historique, n'est-ce pas? Et c'est bien dans cette cour-là, donnant encore une fois sur la rue Michelet, mais qui jadis donnait cette rue sur les bords du canal du Centre. Je vous rappelle que c'est bien là, vous verrez d'ailleurs tout à l'heure, que se situait le canal jadis. C'est donc ici que, en 1863, Gustave Pinet décide d'acquérir une petite entreprise qui se situait là, qu'il va donc investir. C'était précisément l'entreprise de M. Thuriet. Et ce qui est amusant, je ne résiste pas au plaisir de vous lire la petite phrase en question, ce qui est amusant, c'est que Gustave Pinel va décider d'acquérir ce lieu et de créer là son entreprise, je cite, « pour la construction, la réparation et la vente de machines et pour tous autres objets ayant trait à ce genre d'industrie ». On voit bien par là que la petite entreprise que met sur pied par l'acquisition publiée Gustave Pinet est une entreprise qui a pour but de travailler dans le domaine de l'industrie mécanique, dirons-nous, mais que le programme de cette entreprise est encore assez large. Il s'agit en gros de travailler, de réparer, j'allais presque dire de bricoler dans tous les domaines mécaniques. Et au départ, cette entreprise est une entreprise relativement modeste, mais qui, nous allons voir, va croître et embellir de manière particulièrement significative. Alors, intéressons-nous un peu plus au personnage en question. Gustave Pinet va en effet bientôt, on va le voir, développer son entreprise, mais avant de s'intéresser à l'entreprise, quelques mots et quelques regards sur l'homme. Vous avez là, datant de la fin du XIXe siècle, deux portraits de Gustave Pinet, un portrait photographique à gauche et un portrait peint à droite, qui nous montre l'industriel, sinon tout à fait à la fin de sa carrière, il ne mourra que dans les années 1920, n'est-ce pas, nous en sommes encore loin, et qui nous montre cette fois un industriel bien établi. Je vous ai montré tout à l'heure le portrait du jeune homme rentrant de son tour de France. Vous avez là au contraire le portrait d'un industriel qui, après avoir lancé son entreprise et même construit une nouvelle usine, nous allons en parler dans quelques instants, fait partie, j'allais dire, de la bourgeoisie industrielle chalonnaise. C'est un personnage établi qui est d'origine à la fois rurale et ouvrière, n'est-ce pas? Et c'est fort, je dirais, de cette double nature qui nous apparaît sur les images que vous voyez là, ou encore sur cette photographie où nous voyons mon arrière-grand-père, accompagné de son épouse, Irma Pinet, Irma Meunier Pinet, qui est elle originaire de Saint-Germain-du-Plain, c'est une vraie salle. En quelques décennies, cette entreprise Pinet, nous allons voir, est passée d'un modeste atelier de réparation où Gustave Pinet, puis ses quelques ouvriers, bricolaient dans un fond de cour, à, nous allons voir, une entreprise beaucoup plus importante. En effet, précisément, en 1878, Gustave Pinet décide de transférer le siège de son entreprise de la modeste cour que vous avez vue tout à l'heure vers l'endroit que vous voyez ici. Vous voyez qu'en un peu plus d'une décennie, l'entreprise est prise de gigantisme. Et si c'est quelques personnes, quelques 10 personnes qui au départ travaillent dans le fond de cour que je vous ai montré tout à l'heure, dans les années 1870, 1880 et 1900, ce seront 100, 200, puis 300 ouvriers qui, petit à petit, viendront grossir les équipes de l'usine en question. Et vous voyez là une vue aérienne de l'usine Pinette telle qu'elle se révèle dans les années 1880-1885, alors qu'elle s'est bien entendu déplacée depuis l'actuelle, en gros, rue Michelet, vers un territoire qui était encore, j'allais dire, un terrain relativement libre, bien plus au nord, mais toujours le long du canal. Vous voyez, n'est-ce pas, ici, le canal du centre, aujourd'hui complètement remblayé, n'est-ce pas, qui apparaît. Et pour vous situer, l'usine Pinette, dans la géographie chalonnaise actuelle, je préciserai qu'aujourd'hui, non seulement le canal est totalement remblayé, l'écluse que j'ai d'ailleurs connue n'apparaît plus aujourd'hui, en revanche, le fameux toboggan que chacun connaît ici débute ici, sur la droite de la photographie, n'est-ce pas ? Vous voyez que ce paysage a beaucoup, beaucoup changé. Et aujourd'hui, à la place des ateliers Pinette que vous voyez se déployer là, il y a la résidence Pinette que je vous ai montrée tout à l'heure et qui a donc pris place de cette énorme usine dont nous verrons dans quelques instants d'ailleurs les productions. Vous voyez donc que, décidément, entre 1863 et 1880-1885, cette entreprise, en moins de 20 ans, a véritablement explosé. C'était un petit atelier qui devient une grosse usine d'environ 300 ouvriers. Après, ou en même temps d'ailleurs que Gustave Pinette, apparaît déjà son successeur, puisque Gustave Pinette a plusieurs enfants, l'un d'eux est un garçon qui s'appelle Paul Pinette, et vous voyez ici le portrait de mon arrière-grand-père, Paul Pinette, qui est donc d'abord le collaborateur de son père, qui sera ensuite, après la mort de Gustave Pinette, son successeur. Et voilà donc le portrait de ce deuxième élément de cette dynastie industrielle qui nous intéresse aujourd'hui, ainsi que le portrait de son épouse, Marie-Maurice Pinette, morte d'ailleurs relativement tôt. Et donc, Paul Pinette incarne la deuxième génération de cette usine Pinette qui nous intéresse. Mais évidemment, nous ne sommes plus en cette extrême fin du 19e siècle, dans le même cas de figure que lorsqu'en 1863, Gustave Pinette crée son petit atelier de réparation dans un fond de cour de l'actuel rue Michelet. À la fin du 19e siècle, lorsque Paul Pinette, que vous voyez ici trônant au centre, devient le bras droit de son père, l'usine est beaucoup plus importante, à tel point d'ailleurs que Gustave Pinette décidera de s'adjoindre, au-delà de son propre fils, Paul, l'aide de ses deux gendres, à gauche Daniel Graillot, à droite Pierre Lugue, qui vont devenir donc, avec Paul Pinette, une sorte de triumvirat qui seconde le patron de l'entreprise, Gustave Pinette. Pierre Lugue, vous le connaissez, il est célèbre, bien entendu, pour nous, parce qu'il a travaillé dans le cadre de cette dynamique du développement de l'usine Pinette, mais vous savez que Pierre Lugue aura également un rôle très important dans le cadre de la création et du développement du port industriel de Chalon. Une avenue, d'ailleurs, porte son nom. Et bien, nous sommes bien là, n'est-ce pas, dans cette même famille, qui montre bien, d'ailleurs, l'espèce de dynamique entrepreneuriale qui est très vive dans cette famille, mais aussi dans, les provinces françaises à cette époque. Pour poursuivre avec ces personnalités qui nous intéressent aujourd'hui, évoquons encore un peu la personnalité de Paul Pinette, qui est une personnalité intéressante parce qu'elle est multiple. Paul Pinette est donc cet industriel qui seconde puis succède à son père Gustave. Mais Paul Pinette est également, et vous en voyez le portrait à la fin de sa vie ici, à droite de la photographie, est également un personnage très intellectuel et très intéressé, grosso modo, par l'histoire et l'archéologie. D'ailleurs, vous parliez de Cluny à l'instant. Eh bien, sur la photo de gauche, vous voyez une photographie au centre de laquelle apparaît Paul Pinette, n'est-ce pas, donc mon arrière-grand-père. Et sur la gauche, vous le voyez, Kenneth Conant, qui est donc le personnage que vous voyez tout à fait à gauche de cette photographie. Je rappelle que Kenneth Conant est cet archéologue américain qui, à partir des années 20 jusque dans les années 50, va beaucoup travailler à Cluny. Et Paul Pinet, évidemment, va avoir des liens avec Kenneth Conant, va parfois travailler avec lui, vous le voyez là. Mais Paul Pinet était également quelqu'un qui avait le démon de la collection. Il collectionnait beaucoup, toutes sortes d'objets, depuis du mobilier jusqu'à des faïences, en passant par des pièces de monnaie. C'était un numismate averti. D'ailleurs, la collection Pinet a été vendue à l'hôtel de Rouault après la mort de mon arrière-grand-père. C'est une collection de monnaie de référence. C'est décidément un homme que vous voyez, un personnage à facettes. Cet industriel est aussi un historien et archéologue. Voilà qui vous donne une idée un peu plus générale de ce personnage et, je dirais, de la silhouette qui est la sienne. C'est une grande époque que cette fin du XIXe siècle pour les usines Pinet. Vous voyez, décidément, en quelques décennies, le petit atelier est devenu une grande usine. Le fondateur est secondé par trois membres de sa famille. La production est de plus en plus nombreuse, importante, variée. Les médailles peuvent, les diplômes aussi, les expositions nationales ou internationales, les expositions universelles, permettent de, je dirais, favorablement sanctionner les productions Pinet. Et vous voyez là un petit choix de ces médailles ou de ces diplômes qui font la gloire, vous savez, de l'industrie française du XIXe siècle et qui s'accumulent pour sanctionner les productions de cette usine Pinet. Mais quelles sont les productions de cette usine qui nous intéresse et nous avons vu l'évolution fulgurante en quelques dizaines d'années. Disons que pour Gustave Pinet, mais aussi pour son fils Paul Pinet, les productions, enfin, la stratégie économique est avant tout une stratégie locale. Cette fin du XIXe siècle, cette seconde moitié du XIXe siècle, voit en effet en Bourgogne se développer deux pôles industriels très importants. D'abord les mines et d'autre part l'industrie céramique. Et donc on n'est pas étonné de voir que c'est bien dans ces deux domaines, la mine et la céramique, que les usines Pinet vont développer leurs travaux. Un certain nombre de choses dans la région encore témoignent de cette inventivité, de cette production des usines Pinet à la fin du XIXe siècle dans ces différents domaines. D'abord, si vous allez au musée de la mine de Blanzy, beaucoup d'autres vous connaissent, en tout cas je l'espère, vous verrez dans le bâtiment central cette machine à extraction Pinet, réalisée autour de 1890. Elle est datée d'ailleurs, mais j'ai oublié la date précise, je dirais de revérifier. La machine à extraction, vous savez, c'est pas très compliqué, c'est cette espèce d'immense treuil avec les câbles que vous voyez s'enrouler tout autour, et qui a pour but tout simplement de faire monter et descendre la cabine qui permet de descendre ou de monter du puits auquel elle se rattache. Vous voyez donc ici cette grosse machine en parfait état d'ailleurs, qui fonctionne toujours. Les mineurs en retraite du musée de la mine se font d'ailleurs un honneur de maintenir en état cette belle machine. Et si vous allez, ou quand vous êtes allé au musée de Blanzy, vous n'êtes pas manqué de voir le chevalement du puits Saint-Claude, qui d'ailleurs n'était pas là à l'origine, qui vient du mine d'Épinac, mais là n'est pas la question. Et devant le chevalement, vous voyez à droite le bâtiment des machines, la salle des machines, et c'est à l'intérieur de la salle des machines que se trouve la machine à extraction Pinet que je vous ai montré tout à l'heure, que vous voyez à nouveau à droite de cette diapositive, et qui donc, en lien avec le chevalement, permet de faire monter et descendre la cabine dans laquelle les mineurs prennent place pour descendre, encore une fois, au fond du puits. Voilà un type de réalisation, de production tout à fait typique de ces usines Pinet à la fin du XIXe siècle, qui décidément voit dans le développement des mines un domaine privilégié pour leur débouché. Mais le deuxième domaine, c'est, je vous l'ai dit, l'industrie céramique. Vous savez que, en effet, l'industrie céramique, il suffit d'aller le long du canal du Sambre pour le voir, a littéralement explosé en Bourgogne, le long justement du canal du Sambre. Si vous allez dans un autre musée local que je vous invite, si vous ne le connaissez pas, à découvrir, à la Briquet vous verrez dans l'atelier inférieur, il y a deux ateliers superposés, toute une installation que vous devinez sur cette photographie. Eh bien, trône au milieu de cette installation plusieurs machines réalisées par les usines Pinet à la fin du 19e siècle et qui sont intéressantes parce qu'elles montrent bien les grandes phases de réalisation de l'une des productions les plus importantes de cette briqueterie de Cyril Noble à la fin du 19e siècle, c'est-à-dire les tuiles. Ici, vous voyez une machine qui est toujours conservée à Cyril, mais dont là je vous montre à dessin le modèle dessiné, justement, graphique. Vous avez d'abord la gabetière. La gabetière, réalisée par les établissements Pinet à la fin du 19e siècle, et vous voyez que le nom Pinet, c'est un petit objet, ne marque plus, mais tant pis. Le nom Pinet, vous voyez, apparaît sur la gabetière ici, en bas à gauche. Cette gabetière, c'est ce qui permet, notamment grâce au godet que vous voyez dans la partie supérieure, c'est ce qui permet de calibrer les quantités de terre qui seront nécessaires pour réaliser ensuite et pour presser les tuiles correspondantes. Avant de mouler une tuile, il faut préparer la terre qui sera nécessaire pour la tuile. Il ne faut pas qu'il y en ait moins, il ne faut pas qu'il y en ait plus. Et bien, pour calibrer en quelque sorte la quantité de terre, la gabetière est là, qui fait ce travail. La gabetière est donc en amont de la presse, presse qui est conservée encore à la briqueterie de Cyril Noble, que vous voyez là, qui est donc la presse qui avait pour but de mouler les tuiles en question. C'est une presse Pinet, dûment marquée, là aussi dûment datée. Je n'ai pas eu le temps d'aller à Cyril Noble revérifier la date, mais c'est une presse qui date de la fin du 19e, autour de 1890. Et il existe encore à Cyril Noble, à côté de la gabetière et à côté de la presse, ce qu'on en appelle joliment l'élévateur à balancelle, c'est-à-dire une sorte de petit ascenseur avec, hélas, le jour où nous permet pas de le voir très bien, mais avec toute une série de petits plateaux qui permettent, sur chacun d'entre eux, de placer des tuiles et qui permettent donc l'enfournement de celles-ci. Vous voyez qu'on a à Cyril Noble la totalité de la chaîne opératoire qui, avec la gabetière, la presse et l'élévateur à balancelle, permettent de voir comment est réalisée une tuile dans cette usine de Cyril Noble, qui était une usine spécialisée en céramique industrielle, briques et tuiles. Donc, c'est intéressant, parce que vous avez là, très proches l'une de l'autre, deux fabriques qui sont aujourd'hui des lieux muséographiques, qui permettent de voir et de toucher du doigt des productions réalisées par les usines Pinet à la fin du 19e siècle et qui montrent bien décidément que c'est le domaine, l'industrie de la céramique, mais également la mine, sont les domaines privilégiés de ces productions. Il ne faudrait pas, malgré tout, pour autant imaginer que l'industrie Pinet ne fabrique et ne travaille que autour de ces seuls domaines de production. Gustave Pinet, voire son fils Paul, ont gardé, si j'ose dire, cet esprit bricoleur et pionnier des origines. Et si on fabrique des presses, des gabetières, on sait encore, qui sont relativement à la pointe de la technique du temps, on n'en est pas moins mécanicien dans l'art. Et on trouvera, par exemple, au musée de la machine agricole d'Ambert, cette très amusante locomobile, qui est, j'allais dire, moins académique que les machines précédentes, et qui montre bien qu'à côté des grandes productions minières ou céramiques, les usines Pinet continuent à fabriquer, rappelez-vous de la petite phrase que je vous disais au départ, qui est en quelque sorte le credo de Gustave Pinet, les usines Pinet continuent à fabriquer toute une série d'objets mécaniques qui ont pour but de s'intéresser à tous les domaines de l'industrie. Bref, s'il y a spécialisation, elle n'est pas exclusive et elle permet tout de même à l'entreprise de travailler vers d'autres directions. Mais continuons un petit peu le regard sur cette dynastie. Nous avons parlé de Gustave Pinet, le fondateur des usines Pinet. Nous avons parlé de son fils Paul Pinet. Il est temps maintenant de passer à la troisième génération. Je vous l'ai dit, il y en a quatre, n'est-ce pas ? Pas pour la nuit entière. Cette photo de famille est intéressante parce que réalisée sans doute en 1900, Elle permet de voir non seulement des membres de notre famille, c'est une photo qui nous touche, mais également de voir les trois premières générations industrielles Pinette rassemblées. Vous avez en haut à droite Gustave Pinette, le fondateur, avec un canotier. Enfin, nous l'avons déjà vu tout à l'heure, c'est lui. Vous voyez ici, en haut, vers la gauche, vers le centre, on va dire, Paul Pinette, le deuxième membre de cette dynastie. C'est sa mère, d'ailleurs, que vous voyez ici à côté. Son épouse, elle est là. Et puis, vous avez au premier plan, là, baillant plus ou moins, le troisième membre de la dynastie Pinette, qui, je n'y peux rien, s'appelle aussi Gustave. C'est pas dans notre famille, il y a deux Gustaves, l'arrière-grand-père et le grand-père. C'était le père de mon père, qui est ici présent. J'espère que vous vous repérez à mon frère. Bref, entre Gustave I, Paul et Gustave II, vous avez là une photo qui rassemble les trois générations successives de cette famille industrielle. Alors, vous voyez ici, autour de 1900, n'est-ce pas, Gustave Pinette II, tout jeune, âgé de quelques 3 années, n'est-ce pas? Eh bien, voilà le même Gustave Pinette, mon grand-père, quelques années plus tard, 63 ans, sans doute plus tard. Voilà, n'est-ce pas, Gustave Pinette, qui va évidemment, après son père Paul, reprendre le flambeau. Nous avons laissé, n'est-ce pas, l'entreprise Pinette autour de 1900, lorsque Paul Pinette, avec ses deux beaux-frères, sous la houlette de Gustave Ier, n'est-ce pas, travaillait au développement de l'entreprise. Disons que cette entreprise, assez florissante, nous l'avons vu, dont nous avons vu comment elle s'était développée à la fin du 19e siècle, dont nous avons vu les productions, cette entreprise va évidemment connaître, comme toutes les entreprises, le choc de la Première Guerre mondiale, la guerre de 14-18, va évidemment poser le problème que toutes les industries en France connaissent à cette époque. Beaucoup d'ouvriers doivent partir au front. Vous connaissez évidemment les difficultés économiques qui s'en ressentent. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise poursuit, je dirais, son développement et c'est bientôt une nouvelle personne, n'est-ce pas, de la dynastie qui prendra les rênes de l'entreprise. J'ai nommé Gustave Pinette II, que vous voyez ici, qui va être bientôt intégré à cette aventure industrielle, d'autant que avec la mort de son grand-père en 1925, puis de son père en 1932, c'est donc Gustave Pinette II qui va désormais présider aux destinées de l'usine. Usine dans laquelle il avait été formé assez à la dure. Paul Pinette, nous avons vu précédemment, cet industriel intellectuel, avait, si j'ose dire, fait grandir son fils, mais d'une manière, j'allais dire, assez radicale. Il avait, au départ, n'est-ce pas, de sa carrière, fait travailler dans les ateliers, il y avait une volonté de sa part de faire connaître à son fils tous les niveaux de la machine industrielle Pinette et de ne pas l'intégrer directement dans les bureaux, en quelque sorte. Hein. Gustave Pinette, a donc eu l'occasion de découvrir la totalité de ce monde industriel-là, et c'est donc bien lui qui, à partir de 1932, est à la tête de l'entreprise. Vous le voyez là, quelques années plus tard, nous en parlons. Et puis, il est du coup intéressant, au moment où nous en sommes, de voir à quoi ressemblent les usines Pinette en ce milieu du XXe siècle. Vous voyez là une photographie qui peut être datée des années 1960, et qui vous montre décidément ce site de l'entreprise Pinette, des usines Pinette, à cette période. Je pense que cette photographie est assez éloquente. Pour vous situer, n'est-ce pas, tout cela, d'abord, signalons que la Saône, qui est à Chalon un élément déterminant pour se repérer, se trouverait, n'est-ce pas, tout à fait à droite de la photographie. Et ce que vous voyez ici au premier plan en biais, hélas, ma petite flèche ne marche plus très bien, ce que vous voyez au premier plan en biais, en bas à gauche, c'est le canal avec l'écluse. D'ailleurs, je vous montrais tout à l'heure, dans une vue aérienne de la fin du 19e siècle, ce même site du canal et l'écluse. Tout ça est aujourd'hui entièrement, n'est-ce pas, rebouché. Il n'y a aujourd'hui plus qu'une route, et le fameux toboggan, n'est-ce pas, vous connaissez. laissés à cet emplacement-là. Et la quasi-totalité des bâtiments qu'on voyait au centre de la photographie a disparu, sauf quelques-uns que je vous montrerai tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, à vrai dire, seul le bâtiment que vous voyez là demeure encore. Il s'agit de la maison construite par Gustave Pinette Ier, car le patron habite, n'est-ce pas, à côté de son usine, bien entendu. Cette maison existe aujourd'hui toujours. Et si l'on veut rapidement essayer de comprendre comment s'organise l'usine Pinette, je dirais rapidement que vous avez ici vers l'entrée, car l'entrée se situe là, n'est-ce pas, devant le canal, la conciergerie. À gauche, ma petite flèche, décidément, marche très bien. Je vais peut-être être obligé de monter sur l'estrade. Il était dans chacune. Enfin, à gauche de l'entrée donnant sur le canal, vous voyez des bâtiments en longueur qui constituent le secteur des bureaux d'études. Et juste derrière, dès que la flèche sera de retour, je pourrai vous montrer ça plus clairement, derrière se situent les bureaux de la direction. Là, je prends la flèche, ce sera plus simple. Je pense que j'ai un problème de pied.
Elle fonctionne ?
Non. Elle fonctionne avec intermittence. C'est pas pareil. Oui. Pardonnez-moi, mais mon signaleur est en bas. Bien, je disais donc que, je reprends un petit peu, mais vous reconnaissez donc au premier plan le canal avec, bien entendu, l'écluse. Je vous le rappelle, la Saône se situerait par là, grosso modo, n'est-ce pas? Et l'actuel toboggan commence par ici pour se terminer bien plus loin. Je vous le disais également, l'élément aujourd'hui encore existant de tout ce dispositif des usines Pinette que vous voyez là, c'est ça. C'est-à-dire la maison bâtie par Gustave Pinette, qui est donc la maison des patrons, hein, et qui se situe bien entendu juste à côté de l'usine. Usine qui donc s'organise de manière assez simple, autour bien sûr de la conciergerie et du secteur des bureaux qui se situe par là. Ici, les bureaux d'études que nous visiterons à l'intérieur tout à l'heure. Et puis là, vous voyez se développer, je ne rentre pas dans les détails, mais les ateliers, n'est-ce pas, ici, là, par là. Notez d'ailleurs qu'une autre entrée des usines Pinette existe également ici. La rue, vous voyez là, c'est la rue Philibert-Ville, qui existe toujours aujourd'hui. Hein. Et vous verrez, d'ailleurs, si encore aujourd'hui vous passez rue Philibert-Ville, deux petits bâtiments qui sont avec la maison de maître, j'allais dire, les deux éléments subsistants encore de nos jours, des usines Pinette qui ont entièrement, autrement, disparu. Voilà en tout cas un bilan, n'est-ce pas, de ces usines Pinette, et pour essayer de montrer comment aujourd'hui ces vestiges-là s'intègrent encore au paysage urbain, eh bien, vous connaissez ici l'emplacement du canal et le fameux départ du toboggan dont je vous parlais. Vous reconnaissez la maison de Gustave Pinette, qui existe toujours, qui n'appartient plus à la famille, hein, mais qui est toujours donc ici présente. Quant à l'entrée de l'usine et les bâtiments, ils ont totalement disparu. Et vous reconnaissez, bien entendu, ici, ces bâtiments construits dans les années 1970. Lorsque l'on est rue Philibert-Ville, on aperçoit non seulement l'autre côté, n'est-ce pas, l'arrière de la maison de Gustave Pinette, mais également la conciergerie de la maison elle-même, qui existe toujours. Et un petit peu plus haut, dans la rue Philibert-Ville, sont toujours conservés les deux petits bâtiments d'entrée, de l'entrée secondaire de l'usine, hein, vous les voyez ici d'un côté et de l'autre. Je crois dire ces deux petits bâtiments, mais papa vous affirmera tout à l'heure, avaient été achetés, il me semble, par Paul Pinette. Elle se trouvait naguère, je crois, du côté de la place de l'obélisque à Chalon, et avait été racheté et replacé ici, à l'entrée des usines Pinette, à la fin du 19e siècle. En tout cas, c'est aujourd'hui.
Pavillon de Croix.
Pardon, sur les pavillons de Croix.
Pavillon de Croix d'Avignon.
C'est ça. Et ils ont été, je crois, achetés et déplacés pour être placés là. À la fin du 19e siècle, et c'est avec, encore une fois, la maison du Stade Finet, les deux éléments aujourd'hui conservés de l'ancien site de l'entreprise N. Et puis, parlons de la quatrième génération encore présente, n'est-ce pas, c'est-à-dire de mon père, Gérard Pinet, puisque en 1947, après la crise de la Deuxième Guerre mondiale, entre en lice la quatrième et dernière génération industrielle de la famille Pinet, en la personne de Gérard, ici présent, et que vous voyez en réunion de travail avec trois des cadres de l'entreprise, autour de 1963, on est bien, n'est-ce pas, dans le cadre de ces dynasties industrielles dont je vous ai précisé la silhouette. Et il est intéressant d'essayer de brosser en ce troisième quart du XXe siècle une sorte de portrait de l'usine à l'époque. D'abord, l'usine, c'est bien entendu ses personnels. Et vous avez là une photographie prise en 1963, sans doute, représentant une partie des personnels de l'usine Pinet, des personnels très masculins, vous voyez, mais c'est une entreprise de métallurgie, alors on peut le comprendre. Vous voyez également sur cette photographie la totalité des personnels qui sont à l'époque un peu plus de 200, je crois. Et vous remarquez d'ailleurs, non seulement au milieu de la foule, bien mon père ici présent, mais également le PDG, n'est-ce pas, Gustave Pinet II, qui est également présent sur cette sorte de photographie de la famille industrielle Pinet. Les usines Pinet sont évidemment marquées, comme toutes les entreprises de ce temps, par toute une série de, j'allais dire, cérémonies qui font la vie des entreprises du temps. Par exemple, vous voyez ici, autour des 1960, une cérémonie de remise de médailles avec le PDG, mon grand-père, trônant au milieu des médaillés du travail, n'est-ce pas ? Ce genre, évidemment, de cérémonie rythme la vie d'une entreprise à cette période, comme sans doute d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais le grand événement qui, en 1963, va marquer les usines Pinet, c'est le centenaire. Puisque je vous rappelle, c'est en 1863 que Gustave Pinet I, avait acquis, au bord du canal, la petite courette avec la vieille tour médiévale que nous avons vue. Ce qui veut dire qu'en 1963, c'est bien le centenaire des usines Pinet qui est célébré. Et vous voyez là d'ailleurs la couverture et la quatrième couverture de la très belle plaquette qui a été imprimée à cette époque-là, une plaquette très design d'ailleurs, et qui avait pour but de montrer cette espèce d'aventure industrielle que je vous résume aujourd'hui à une époque, nous sommes donc en 1963, où cette entreprise fonctionne de manière très favorable, la crise industrielle n'est pas encore là. Et cette plaquette est intéressante parce qu'elle montre bien la logique de l'entreprise elle-même. D'abord, l'intérêt de l'emplacement de Chalon par rapport à la géographie de la France. Cette carte très amusante réalisée avec des boulons, des tiges et des ressorts permet en effet de montrer l'emplacement idéal de Chalon entre Paris et Marseille, près du Creusot et du Monceau. Mais on a vu tout à l'heure comment, décidément, la stratégie de l'usine au départ était bien une stratégie régionale autour de la mine et de la céramique. Et cette carte très spirituelle, je crois, le montre bien. Le centenaire de l'usine a bien entendu été l'occasion, 100 ans, ça se fête, de grandes cérémonies. Il y a eu, bien entendu, le grand discours. On a tout un album de ces cérémonies-là, très passionnant, presque un demi-siècle après. Vous voyez là, trônant, n'est-ce pas, sous le portrait de l'ancêtre, nous possédons toujours, donc de Gustave Ier, de Gustave II, mon grand-père, bon, faisant au milieu des autorités le discours qui célèbre cet épisode du centenaire. Voilà aussi pour montrer, je dirais, les événements qui ont accompagné ce centenaire, le banquet, puisque la totalité des personnels de l'usine ont été conviés à un immense banquet, parce qu'il est républicain, que vous voyez ici, peut-être un peu arrosé d'ailleurs. Vous voyez ici une joyeuse table qui a été photographiée. On a comme ça les portraits, la totalité des personnels dans cet amusant album. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que cette année 1963 est l'occasion finalement de faire une sorte de bilan de cette entreprise après 100 ans d'existence, une entreprise pré-choc industriel en quelque sorte, une entreprise qui fonctionne plutôt bien, qui va d'ailleurs entamer un certain nombre d'évolutions, une entreprise nombreuse, hein, je vous le disais tout à l'heure, une entreprise dont quelques vues permettent de montrer les savoir-faire. Voilà par exemple une vue du bureau d'études. Tout à l'heure, je vous montrais sur la vue aérienne de l'usine, enfin, l'emplacement du bureau des études. Et bien, vous avez là une vue intérieure avec les dessinateurs qui conçoivent et dessinent, n'est-ce pas, les machines qui vont être réalisées. Voilà une autre vue montrant cette fois le bureau des méthodes et du planning. Et puis, bien sûr, des vues d'atelier, comme ici, l'atelier de mécanique générale, l'une des grandes barres, n'est-ce pas, que je vous montrais tout à l'heure sur la vue générale. Bref, voilà une sorte de portrait des entreprises, de l'entreprise Pinette en ce milieu du XXe siècle. Une entreprise dont les réalisations sont des réalisations qui continuent dans les domaines qui avaient été identifiés dès le 19e siècle. L'entreprise Pinette continue à travailler autour notamment des industries liées à la mine. Par exemple, vous voyez ici un énorme tambour de lavage pour le charbon. Vous voyez ici un personnage à droite qui montre bien l'aspect tout à fait colossal, n'est-ce pas, de cette machine destinée encore une fois au lavage du charbon. Dans la partie inférieure, vous voyez un crible, tous deux. De fabrication Pinette réalisée autour de 1960 et qui montre bien la poursuite de cette expertise industrielle dans le domaine minier ou dans des domaines proches. Vous voyez d'ailleurs là des machines toujours réalisées par les entreprises Pinette dans les années 60 qui sont cette fois des concasseurs à mâchoire, plusieurs exactement du même type, sont des sortes de prototypes en quelque sorte ici, réalisés dans la même période avec bien entendu le nom là. L'usine, n'est-ce pas, qui est marquée ici. Décidément, les domaines miniers ou les domaines proches restent un des éléments, une des cartes de visite de cette entreprise. Parmi d'ailleurs les gloires, pourrait-on dire, des productions Pinette, il y a les convoyeurs. Vous savez, les convoyeurs, ce sont des espèces d'immenses bandes roulantes qui, dans les mines d'autrefois, maintenant tout cela a largement disparu, emmenaient le minerai depuis le site de la mine jusqu'au secteur où on traite le minerai, le charbon, pardon, notamment le lavoir. Hein, certains d'entre vous connaissent sans doute à Mont-sur-les-Mines ou à côté de Mont-sur-les-Mines le fameux lavoir des Chavannes, qui est le lieu où on nettoyait, où on lavait le charbon récemment extrait. Et ce qui est intéressant, c'est que les Pinette ont mis au point un type de convoyeur un peu révolutionnaire, et vous le voyez, n'est-ce pas, ici cheminer entre les puits de mine visibles à côté des grands terrils, d'ailleurs entre les puits de mine, tout ça aujourd'hui entièrement disparu du bassin de Mont-sur-les-Mines. Vous voyez le convoyeur qui arrive ici comme une sorte de gigantesque voie ferrée. Mais l'invention Pinette, c'est d'avoir imaginé un convoyeur dont une bande roulante amène le charbon qui a été extrait, et dont l'autre bande roulante, celle qui revient après être allée au lavoir, ramène les éléments qui n'ont pas d'intérêt, si vous voulez, les détritus, hein, et qui vont d'ailleurs ensuite garnir les terrils que vous avez ici. Autrement dit, pendant qu'une bande fait un travail nécessaire, l'autre ne revient pas à vide, mais revient avec le matériau qui lui n'a pas d'intérêt et qui, encore une fois, sera stocké sur les terrils en question. Ces convoyeurs sont immenses, ce sont des espèces de grandes bandes comme ça qui parcourent la campagne minière. Et d'ailleurs, les entreprises Pinette réalisent également, dans ces mêmes années 50-60, d'autres matériels liés à la mine, comme par exemple ce qu'on appelle les mises en terrine, c'est-à-dire des sortes de voies, de de chemin de fer à wagonnaire, vous voyez ici cette voie qui s'élève. Imaginez donc des petits wagonnets, n'est-ce pas, montant ici avec des matériaux non utilisables et qui vont donc s'empiler sur les terrils qui se situent en bout de piste en quelque sorte. Vous voyez que décidément, la mine reste jusque dans ces années 50-60 un des domaines d'activité de l'entreprise Pinette. C'est d'ailleurs la même chose pour le domaine de la céramique. Vous avez là une presse, ou plus exactement un broyeur à meule, qui est d'ailleurs, de façon mécanique et moderne, la transposition des anciens broyeurs artisanaux traditionnels, qu'on voit parfois encore conservés. Bref, le domaine de la préparation céramique, ce qui est le cas ici, est un domaine qui continue d'être travaillé dans ces usines Pinette. Mais là, le domaine nouveau qui va beaucoup se développer dans l'entreprise à partir de l'après-guerre, c'est celui des presses hydrauliques. Il se trouve en effet que Pinette avait eu l'occasion d'acquérir un certain nombre de licences de plusieurs entreprises, notamment l'entreprise Blach, une entreprise parisienne spécialisée dans les presses hydrauliques. Et donc, les entreprises Pinette vont développer, à partir de ce milieu du XXe siècle, un nouveau domaine qui jusque-là était peu et qui est celui de la presse, qui va devenir, vers le milieu du XXe siècle, peut-être la spécialité essentielle de cette entreprise. Alors, vous voyez là, par exemple, toute une série, une véritable batterie de presses hydrauliques. Certaines sont terminées, d'autres sont en cours d'achèvement. Ce sont des presses hydrauliques pour mouler des matériaux thermodurcissables. En l'occurrence, celles-ci réalisées dans les années 1960 étaient destinées à l'URSS. Ce sont donc des presses d'une très grande technicité. De la même manière, vous avez là une autre presse hydraulique réalisée dans la même période, destinée à la Turquie, à Izmir, hein, très particulièrement, et qui avait pour but de réaliser des panneaux de bois compressés. Ce sont des machines importantes, hein, vous en voyez l'échelle grâce au personnage qui est là sur le côté. Bref, la presse hydraulique devient, dans l'entreprise, une des spécialités essentielles pour compléter, mais peut-être aussi prendre la place de ces industries minières et céramiques qui, petit à petit, ont évidemment, depuis le début du XXe siècle, beaucoup décliné, la presse devient la spécialité du lieu. Une spécialité qui va d'ailleurs, nous allons l'évoquer, permettre de favoriser l'exportation. De plus en plus, l'entreprise Pinette exporte. Vous avez ici une photo assez amusante qui montre mon père arrivant à Bombay dans les années 70 avec M. Mika. M. Mika était directeur commercial d'une entreprise avec laquelle l'entreprise Pinette avait souhaité fusionner, l'entreprise Imco. Et donc vous les voyez tous deux, Gérard Pinette et André Mika arrivant à l'aéroport de Bombay, affublés des guirlandes de fleurs nécessaires. Reçoit l'étranger en Inde, c'est avec quelques faces, vous voyez. Et cette photo est intéressante, je pense qu'elle montre bien, elle incarne bien, elle symbolise bien cette volonté de l'exportation qui va devenir quelque chose de très important dans cette évolution des usines Pinette à partir des années 60-70. Notons d'ailleurs que, entre-temps, Gustave II Pinette, dont je vous ai parlé, est décédé. Un accident de voiture est en effet survenu. Et c'est en 1966, si ma mémoire est bonne, que Gustave Pinette II décède. Et alors, Gérard Pinette va prendre, à partir de ce moment-là, seul les rênes de l'entreprise et va, poursuivre et même consolider cette action vers l'extérieur, vers l'exportation que décidément cette photographie montre bien. En tout cas, dans les années 66, 67, 68, l'entreprise fonctionne d'autant mieux, l'entreprise Pinette & Co. désormais, qu'on décide construire une nouvelle entreprise, une nouvelle usine. Le site au bord du canal du Centre, qui d'ailleurs entre-temps a été comblé, est un site qui posait de plus en plus évidemment de problèmes. Les industries en centre-ville ne sont évidemment, enfin, sont de moins en moins tolérées. Donc, à partir de 1966-67, on décide de construire sur la zone industrielle une nouvelle usine. Vous voyez d'ailleurs ici une usine en construction avec le panneau Pinette et Nitro, n'est-ce pas, au premier plan. Je ne vais pas vous passer 1000 vues de l'usine en construction, simplement 2 ou 3 qui vous permettent de comprendre et d'incarner la construction de cette usine qui sera terminée en 1968 et qui décidément sanctionne en quelque sorte cette évolution très favorable de cette usine à la fin des années 60, qui donc d'une production très liée à des domaines en perte de vitesse a su assumer, je dirais, de nouvelles directions vers la précédente ligne, d'où, encore une fois, construction de cette usine nouvelle, dont vous voyez là une vue aérienne en 1968, sans doute, c'est-à-dire à l'époque même de sa construction, au moment où elle est terminée, où elle commence à fonctionner. Cette usine existe toujours aujourd'hui, simplement elle a été quelque peu modifiée. L'environnement s'est également densifié, comme vous le savez. Mais en tout cas, voilà une vue aérienne qui vous donne une idée de cet établissement à la fin des années 60. Je terminerai tout à fait ce cours en précisant que, hélas, les nuages vont bientôt arriver. Je vous l'ai dit, l'exportation est un élément important dans cette entreprise qui s'est de plus en plus spécialisée dans le domaine de la presse hydraulique et qui de plus en plus travaille à l'exportation. Et c'est bien ce qui va poser problème, car un des grands lieux d'exportation des usines Pinette, c'est l'Iran. Alors vous savez ce qui passe en Iran à la fin des années 70. C'est évidemment l'écroulement du régime du Shah et l'avènement de l'Ayatollah Khomeini, vous connaissez tout cela, d'où évidemment un gros problème parce que l'un des grands marchés des usines Pinette à la fin des années 60, début des années 70, c'est justement l'Iran. Et avec ces événements iraniens, du jour au lendemain, mon père peut-être en témoignera tout à l'heure, les commandes nombreuses mais aussi non payées vont poser de gros problèmes aux usines Pinette, qui vont en fait, en quelques temps, connaître des problèmes financiers de très grande importance, qui vont obliger petit à petit, à la fin des années 70, d'évoluer de manière radicale. Et c'est en 1981, si ma mémoire est bonne, que l'entreprise sera finalement revendue. Elle a été acquise par les frères Lagou, l'un d'eux est d'ailleurs ici présent. Et cette affaire iranienne va, en quelque sorte, sonner la fin de cette dynastie industrielle dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, la suite, j'allais dire, vous la connaissez, non, vous ne la connaissez pas, nous la découvrirons dans quelques semaines, les 12 et 28 mars, 29, je crois, 29 mars, au moment de la visite des usines Pinette et Nitko, mais actuelle, reprise, n'est-ce pas, par le repreneur dont je parlais tout à l'heure en 1981-1982. Des entreprises qui, je crois, sont toujours spécialisées et dans des technologies extrêmement avancées, au point, autour des questions de champ à la presse, notamment à la presse hydraulique, mais de ça je ne parlerai pas, j'en suis très incompétent et non pas question au moment de la visite sur place. En tout cas, ce que je tenais ce soir, c'est de manière rapide d'essayer de vous montrer, pas simplement sur un plan technique ou industriel, ce que d'ailleurs je serais un peu incompétent à faire, mais sur un plan plutôt historique, une sorte de silhouette et d'évolution de ce qui a été entre le milieu du 19e et le milieu du 20e siècle, le développement d'une dynastie industrielle de notre ville. Je vous remercie.
Donc, je confirme, c'était une première mondiale, et vous avez eu le privilège insensé d'y assister. Donc, est-ce que je pourrais demander à Serge Lagoutte et à Gérard Pinette de venir ici sur l'estrade, au moins sur le plancher de vache? Tu viens? Parce qu'on a la chance d'avoir des témoins vivants de cette grande aventure.
Vous ne rencontrez pas, c'est pas une toute soirée.
Non, mais c'est sans façon.
Serge, beaucoup mieux. C'est logique.
Donc vous reconnaissez donc Serge Lagoutre, qui a donc racheté l'entreprise Kinet et Mideco. Je vais donner la parole et à l'un et à l'autre pour qu'ils disent quelques mots vécus. Donc je commence par.
Un peu bien cela.
Voilà.
D'abord, je voudrais remercier mon fils. Parce que, comme d'habitude, chaque fois que je l'écoute, il me surprend. La facilité d'exécution, c'est à moitié surprenant parce que je suis son géniteur quand même. Par conséquent, il avait vraisemblablement de qui dire. Enfin, j'arrive pas à s'acheter. Surtout maintenant, l'âge aidant commence à penser à l'humanité de l'autre côté. Non mais bravo, parce que pour un garçon qui connaît rien la mécanique, il s'est quand même pas mal débrouillé. Il faut dire que je lui ai donné un petit. Je lui ai filé une piqûre de rappel hier soir. On a passé 2 heures ensemble. Et je vois qu'il a très bien enregistré tout ce que vous lui avez rappelé. Bien, ce que je dirais simplement, c'est que je reviens un peu sur la fin. Effectivement, pour moi, ça a été un calvaire. Parce que, à tort ou à raison, j'avais joué la carte exportation. Et je l'avais développée d'une façon assez considérable, car on avait de nombreux pays sur lesquels on a commencé à exporter à Pongo et plus, on a concédé des licences. C'est le cas par exemple de l'Inde, hein, il n'y avait plus moyen d'exporter, de concéder des licences, fabriquer sur place, on touchait des royalties, qui étaient généralement d'ailleurs pas très importantes. Par contre, sur l'Iran, on avait mis le paquet, comme on dit vulgairement. J'ai participé à plusieurs phares de Téhéran et je suis resté sur place jusqu'au dernier jour. Je suis parti le même jour que le chat. On n'a pas pris le même avion, mais j'ai quitté l'Iran, avec des canons de mitraillettes pointés sur le long pile. Quand je rentrais à mon hôtel le soir, je pris de voir que ce n'était pas très confortable. Pourquoi ? J'étais là-bas à ce moment-là, in fine, pour vivre les instants du chat, simplement parce qu'on avait des sommes considérables, on avait livré d'importants matériels, parce qu'on avait une chaîne complète de fabrication, et nous n'étions pas payés. Nous avions cependant les assurances commerce extérieur, la COFA, à laquelle nous étions abonnés, mais il paraît que l'incident n'était pas avéré. Alors nous n'avons rien touché. Et avant que éventuellement on aurait pu intervenir 5 ans après, j'en sais rien. Mais comme il n'y avait plus de moyens, on était complètement acculé, financièrement parlant. J'ai été obligé de me mettre, comme on le dit couramment, gentiment, sous la protection du tribunal de commerce, hein, et de déposer mon bilan. Bien. Ce qui fut fait, c'est dû, c'est des moments très difficiles. Dans ma vie d'industriel, j'ai eu des moments de grand moment de joie, mais j'ai eu aussi énormément de peine. Ma consolation, quand même, c'est de voir les frères Lagoutre maintenant, qui ont repris ces murs. Et ils ont eu l'élégance de conserver la raison sociale. Et j'avoue que ça me touche beaucoup, parce que si je ne suis plus dans l'affaire, l'affaire existe encore. Et ça, je ne saurais trop vous remercier. Serge, votre frère Gérard, le bien nommé, qui s'appelle comme moi. Et je sais que vous êtes des techniciens très pointus. Vous avez la tête dans les étoiles ?
Un peu,
puisque vous travaillez pour l'espace. Je sais qu'en gros, vous avez fabriqué des dispositifs extrêmement sophistiqués qui envoient les satellites, je crois. Jusque sur les orbites qui leur sont destinées.
La coiffe d'Ariane.
Mais il vous expliquera. Je peux enquêter sur son terrain. Voilà. Alors, ceci dit, j'ai une chance dans ma vie. C'est que je ne regarde jamais derrière. Je pense toujours à ce qui pourrait se passer demain. Alors, ça ne m'empêche pas. Je dors, j'arrive à dormir. Hein, parce que le passé, il est ce qu'il est. Mais je me dis, j'ai encore la chance, j'ai 86 ans. J'ai encore la chance d'être là, à peu près d'aplomb. Bon, et alors, finalement, je suis pas malheureux. Encore une fois, je vais passer la parole à Serge Lagoutre.
Merci pour le témoignage. Le témoignage vivant, c'est un prix qui dépasse toutes les présentations, même si elle est faite par le fils qui ne donnait rien à la mécanique, je le note. Donc Serge, je te donne la parole, puisque en fait, Serge Manoud et moi, on se connaît depuis un certain temps, on était collègues dans une vie antérieure. Donc le fait de lui avoir demandé, d'avoir demandé de Pinette, c'est que je connaissais quand même un petit peu l'histoire de près à travers les protagonistes. Donc Serge, je te donne la parole.
Merci. Écoutez, je n'étais pas préparé à prendre la parole.
C'est comme ça, un rocker. Comme ça, c'est pas des Esquimaux, c'est comme ça.
Comme ça, vous m'entendez. Donc, vous me prenez un peu à foi pour parler de cette aventure. Effectivement, votre fils a décrit alors avec beaucoup de minutie. Et comme j'ai pas fini par ça, vous avez fait une synthèse. Tout à fait.
Une cabine, c'est une case d'extraction. C'est pas grave.
C'est une très bonne synthèse. Quand à Gérard Pinette, quand on s'est rencontré, en définitive, on a repris en 81. C'est 81, c'est 84.
Oui.
Quand il y a eu un intervalle, plus ou moins.
Entre les deux, il y a eu un balbutiement.
Effectivement, je me rappelle d'avoir demandé à Gérard Pinette s'il pouvait garder le mot Pinette. Alors j'avais une raison fondamentale de garder deux raisons. Le fait qu'on ait commenté les régionaux d'État. Et cette grande famille, mais c'est quand même avant d'avoir pensé à reprendre cette entreprise. Et puis, Pinette est connu dans le monde entier. Il fallait surtout pas changer de nom. Il y avait donc deux raisons de garder. Et je me rappelle de l'avoir demandé.
L'ICO a une certaine réputation aussi.
Tout à fait. Alors, l'évolution de la société, vous verrez, hein, parce que à votre initiative, on va vous recevoir le 12 et le 29. Vous verrez exactement cette entreprise dans les lieux tels qu'on vous les a présentés actuellement dans cette usine qui a été construite en 68. On ne l'a pas fait beaucoup évoluer, on a simplement rapproché le bureau d'études qui était sur un bâtiment qu'on appelle sur la gauche, on l'a rapproché un petit peu pour éviter les transferts extérieurs. Mais au niveau de l'évolution, on a fait comme vos prédécesseurs. On suit le marché, on suit la demande, et aujourd'hui la mule n'existe plus, la céramique n'existe plus, donc on a conservé le cœur du métier de la presse hydraulique. Alors évidemment, les presses que l'on fait aujourd'hui sont assez différentes de ce qui a été fait au départ, mais la fonction est la même. Et alors au niveau de la destination de ces presses, on est obligé aussi d'évoluer beaucoup parce que au départ, on était dans les terres dures, les terres en plastique, l'automobile. L'automobile est un secteur qui est en décroissance notable. Et c'est pour ça que mon frère et mon fils, qui sont des ingénieurs de l'aérospatiale, on a pu développer des outillages. Pas, on ne fait rien qui vole, hein. C'est des outillages qui permettent à rien de voler. Et vous verrez, je crois, le 12, il y a un gros matériel qui est là, qui est destiné à Ariane, mais ce sont des outils. Donc on a évolué, la part automobile a beaucoup baissé, et le côté aérospatial et Airbus a pris petit à petit la part. Voilà, bon, donc, ce que je peux dire pour cette société, ça va.
Merci, Serge. L'aspect dynastique de cette aventure continue dans une autre famille, hein, la famille Lagoutte. Donc il y a même le petit-fils que j'aperçois là-bas. Hein. Donc ça continue. Et donc vous voyez, quand on veut, on peut. On parle beaucoup en ce moment de l'industrialisation, de choses comme ça. C'est pas facile. Je pense qu'on confirmera pendant la visite. Ça n'a jamais été facile et ce ne sera pas facile, mais quand on veut, on peut. Donc, encore un témoignage, puisque d'une aventure industrielle, et comme les demandes, au vu de l'expérience des années précédentes, sur beaucoup de personnes avaient participé aux visites, donc on continuera les années suivantes à vous faire visiter une ou deux entreprises chalonnaises. Pour que vous connaissiez ce qui se passe dans notre région et vous voyez qu'il s'y passe des choses parle jamais, sauf pour les plans sociaux et les choses comme ça dans la presse, donc on n'a pas de vision extérieure, hors des milieux professionnels, de ce qui se passe dans l'industrie, en particulier l'industrie locale. Voilà, donc merci. Et puis ici, y a-t-il des questions à poser? Donc, à la visite, Ulrich.
Que les membres de l'IFPI étaient tous des autodidactes.
Alors, ils étaient tous des autodidactes.
Ben, je pense, mais papa répondra.
Vous parlez si de quelle entreprise?
Pinette. Je pense qu'on peut dire oui, parce que dans
On peut dire oui. On peut dire qu'il n'avait pas. Mon père était HEC, par exemple, pour vous donner une idée. Quant à moi, j'avais fait l'école de l'air. Je ne me destinais pas du tout à la mécanique. Hein. Bon, mais enfin, j'avais quand même un certain nombre de notions hein, de mécanique, justement, parce que dans l'aviation, on parle aussi un petit peu de mécanique. Et mon père était HEC. Et au début, quand il est arrivé, son père lui a dit on est foutu, ben, mon fils vient d'HEC. Bon, évidemment, pour un ingénieur, ça paraissait curieux. Mais bon, autrement, la plupart. Par contre, les collaborateurs, les gendres de Paul Pinet étaient ingénieurs. Nuc était ingénieur, Nuc, le père du port de Chalon finalement, était ingénieur des mines. Hein. Et Traillot, son autre beau-frère, lui, était financier. C'était le financier de l'entreprise. Il était bien secondé, Paul Pinet. Il avait d'un côté un gendre financier, de l'autre côté, un gendre qui était tout à fait qualifié pour s'occuper des autres problèmes, des problèmes techniques. Pierre Nuc était un peu un inventeur, quelquefois il avançait bien, quelquefois il était un peu à côté. Enfin, pour tous ces gens-là, hein. Et ça a quand même été un problème. Voilà. Maintenant, chez la groupe, ils sont techniciens. Il y a beaucoup d'art de métier.
Ah, attends, regarde.
Par nécessité, on est obligé aussi d'épouser toute la partie informatique, la partie
nouveau
process. Voilà. Mais on a effectivement dans les bureaux d'études, c'est généralement des jeunes qui sortent avec des BTS ou des DUT de mécanique générale. Voilà, notre formation.
Il a foutu en l'air toutes les tables à dessin. Il a remplacé.
Il les a remplacés par des ordinateurs.
Ah, voilà. Ah, oui. Ah, oui, ça, non, les machines qui étaient pilotées par des automates.
Oui. Bon. Oui, encore une question.
On avait quand même
encore.
Nous avions
obtenu
tout à l'heure une
locomotive.
Est-ce que ça a été une production importante dans la région Pinet ou si ça a été simplement.
C'est pas une locomotive, c'était. C'est une locomobile, autrement dit une machine à vapeur, si vous voulez, qui était prévue pour entraîner des outils industriels. Les anciens établissements Pinet, au bord du canal, étaient toutes les machines, mais il y en avait des paquets de machines, des bâtis, tout à n'en pas finir, étaient toutes entraînées par des systèmes de transmission de poulies et de courroies. C'était une forêt vierge dans cet atelier. Et il y avait une machine, une locomobile, une machine à vapeur, qui était l'élément moteur qui entraînait tout ce bazar. Ce n'était pas une locomotive. Mais c'était quand même des fabrications propres à Gustave l'Ancien ou à Paul. Hein, pardon. C'était des fabrications propres.
Est-ce que
vous avez
souvenir d'une locomotive à corde verticale?
Pardon?
Une locomotive à corde verticale.
Oui, 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 oui. Il y en a une au musée d'Ambert.
C'est celle que je.
Mais vous la connaissez cette machine?
Je ne la connais pas personnellement, mais le musée machiniste agricole de Saône-et-Loire souhaitait l'atelier pour protéger oui. Et il n'a pas pu l'atelier à ce moment-là.
Le musée d'où?
C'est machiniste agricole à Saint-Vigne, c'est ça?
Non,
de Vigranchamp.
De Vigranchamp.
Oui, il a dû en avoir, elles étaient verticales ou horizontales, c'est vrai. Donc, si vous dites.
C'est très rare.
Ça, c'est la verticale.
celle donc, du musée de Dambert, hein, qui est un autre. Alors, je ne sais pas si c'est une machine du même genre dont vous parlez. Non.
Mais les établissements humains ont fabriqué des machines à vapeur, en particulier des machines qui sont enlevées. La station primaire de Clermont, c'est des machines primaires.
Je suis désolé, j'entends mal. Attendez.
Monsieur parle de la station de pompage de Chalon. Pardon ? Monsieur parle de la station de pompage de
Chalon. Ah oui, les pompes élévatoires.
Oui.
Les pompes élévatoires ont été fabriquées par Pinette aussi.
Il y a eu deux équipements. Le premier, c'est l'équipement d'Arcor. Et le deuxième, c'est la transformation de la ville de l'Ontario avec l'équipement à partir avec des moteurs électriques.
Exactement.
Et la machine à vapeur qui a été installée au pont de l'élévatoire a été revendue par les établissements de
Et puis les collaborateurs. Voilà. Donc merci.